Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Quand en 2007, le groupe français Mendelssohn fait paraître le double album « Personne ne le fera pour nous », la critique est enthousiaste et quasi unanime. Ce disque est un chef-d'œuvre. Mendelssohn, à coup sûr, le groupe rock français le plus important du moment et l'un des seuls, en tout cas, à inventer encore quelque chose. L'écrivain Olivier Adam s'enthousiasme dans Libération. Si quelqu'un m'écoute, qu'il s'y précipite. Le disque est immense et Pascal Bouaziz, le patron du groupe, écrit comme personne en France, littérature comprise. Bernard Lenoir sur France Inter annonce quant à lui que l'on tient là le meilleur album de l'année. Le site Pincushion va plus loin. Tutoyant encore une fois les sommets, Mendelssohn délivre une œuvre générationnelle dépressive, intense et tranchante, le meilleur album de rock hexagonal de la décennie. Dans la revue de référence Mouvement, voici ce que l'on pouvait lire. Avec Personne ne le fera pour nous, double album infailliblement indocile, Mendelssohn affirme un peu plus la place à part qui est la sienne sur l'échiquier du rock français, mais aussi de l'industrie du disque, puisque ce disque est distribué exclusivement via le site internet du groupe. Et oui, car de cet album déterminant, aucune maison de disque n'avait voulu. Trop étrange, trop différent, résolument inclassable. Trop grand pour une industrie du disque à la vue basse et aux idées courtes. Deux disques donc, gorgés de chansons qui viennent à vous comme le ressac, serrent une marée qui vous prend par surprise, vous entoure bientôt, vous interdisant tout demi-tour, toute demi-mesure, toute négociation. On est littéralement cerné par le flow de Mendelssohn.
Aujourd'hui, je m'en fous, je me souviens de tout, comme s'il avait fait beau toute cette époque-là. Les souvenirs, c'est comme une fausse vie qu'on subit. Les souvenirs, c'est comme les films Super 8, ça a comme sa propre vitesse, faut pas ralentir la machine, de peur de brûler. Ce qui reste, faut prendre ça comme ça vient. Je regarde et je profite. Et je revois mes amis. Et je me revois là, à ce coin. Et c'est fou ce que je suis petit. Et c'est fou ce que je rigole. C'est fou ce que je rigole. Pour n'importe quoi, ma mère descend l'allée, m'appelle. Et moi je souris quand elle me voit. Elle me dit peut-être qu'elle aime pas trop mes amis. Mais c'est pas grave, plus tard on ira quand même ensemble mettre des pétards mammouths dans les poubelles, marcher dans les roses rouges du concierge, faire du skateboard dans la descente jusqu'au virage. Je suis surpris de pas être mort au moins une fois. 1982, j'étais si amoureux, j'étais si content d'être malheureux, je croyais que ça finirait pas, ça s'est fini tout seul bien sûr. 1983, moi et elle, moi et Barbara, on se regardait, on restait là, j'aimais sa mère aussi un peu je crois, j'attendais devant sa porte, je restais dans l'escalier, j'appuyais la minuterie jusqu'à ce que je parte en courant, jusqu'à ce que de l'autre côté, j'entends ta voix. Il y a eu d'autres filles plus tard. J'ai jamais compris ce qu'elles pouvaient me voir, que toi tu ne voyais pas. J'ai jamais rien compris, Barbara. Tu sentais bon le parfum de ta mère. Je t'avais acheté des fleurs pour ton anniversaire. Ma mère disait que c'était des fleurs pour les cimetières. Et je te revois plus tard sur le chemin de l'école. Sur le trottoir d'en face, la patinoire, je te faisais signe, je te filais mes devoirs. Je te regardais les mains, les cheveux, j'aurais voulu toucher ton bras et ton cou et l'endroit où il n'y avait rien sur ta poitrine. J'y pensais la nuit, j'y pensais le jour, je pensais plus jamais rien qu'à ça. Tout le monde disait que je t'aimais, tout le monde savait que je t'aimais. Je prenais l'air malheureux pour te faire honte. Et on se défend comme on peut, tu sais, je fais toujours comme ça. Et je revois la famille d'à côté qui étaient nos pauvres. Ça rassure dans un monde compliqué, il y a toujours plus pauvre que soi. À qui ma mère a donné ma collection de pifs et encore nos vieux vêtements, nos jouets. Qu'avait un chien plus grand que je croyais que c'était possible, qui dormait dans leur baignoire. Leur père faisait du cyclisme, un peu d'alcoolisme aussi je crois. Sylvie, leur fille, qui était bizarre, on disait qu'elle était en retard. Ma mère disait qu'ils n'avaient pas eu de chance. Je disais qu'ils sentaient pas bon. Ma mère disait qu'elle avait honte que je puisse dire une chose comme ça. Ils habitaient face aux hippies. Entre eux, ils s'aimaient pas. Les hippies étaient jeunes et beaux. À ce qui me semblait, c'était plus propre chez eux et puis plus chiant aussi un peu. Ma mère essayait de les aimer. Elle avait besoin d'amis. Elle disait qu'ils étaient sympas. Sympa. Ils avaient des tentures aux murs indiennes, des tapis incas. Ils écoutaient de la musique étrange, buvaient du thé, revenaient de voyage, étaient bronzés. C'était une autre vie que nous. Ma mère essayait bien d'être à l'aise, mais il me semble bien, ça marchait pas. Et je me revois avec mon père, distribuer les dimanches de porte en porte l'humanité. Et je revois les voisins plus riches des collègues à maman qui vivaient dans les petits pavillons plus chics. La lutte des classes, c'est un jardin, une table de ping-pong, une chambre pour chacun, une cheminée dans le grand salon, une voiture neuve, un frigo plein, des vacances, été, hiver, des chouettes habits, c'est propre et ça sent l'air. Et je revois le crépi dans notre appart et mon père qui partait au cours du soir. Il garnica dans l'entrée, il y avait sur les murs peut-être un dessin de Folon. Plus un de moi, une poupée qu'avaient ramené mes grands-parents pour leur retraite d'un voyage à l'étranger. Il y avait l'affiche d'une ronde de petits chinois, Buster Keaton qui souriait jamais. Tous les jours je le regardais, je le fixais, peut-être c'est lui qui savait. Je voulais comprendre pourquoi. Et je revois la télé, noir et blanc et moi assis en tailleur. Et la chambre et le Christ au-dessus du lit de ma petite sœur, qui était toute une histoire dans la famille que je comprenais pas. Et tout ça se mélange, et la tristesse de maman, et le bruit des gens qui jouaient aux boules dehors les soirs d'été, quand on se couchait avant le soleil rouge qu'on devinait à travers le rideau, avec mon frère depuis les nids superposés. On rentrait à 6h pour le bain du soir, on évitait la malade du bas de la cité, qui avait notre âge et qui crachait sur tout le monde, qui se promenait tous les soirs pareil avec son père, on disait la Mongolie. Qui faisait peur et puis de la peine. À l'époque, j'ai dû tout pleurer. Je pleurais pour rien, pour la voiture qu'on changeait, pour un nouveau papier peint. Et puis je restais des heures dans la cage d'escalier à remonter les étages dans le vide de l'autre côté de la rambarde, avec toujours la peur et l'envie que quelqu'un vienne et me surprenne en train de tomber. J'avais deux meilleurs amis. À l'époque, j'aurais pas choisi. L'un, sa famille était moins drôle. Son père était archi que j'ai jamais vu en dehors de chez lui. Sa mère me paraissait immense, pas très facile. Et puis son frère avait la plus grande collection de comics que j'ai jamais vu de ma vie. Que des Marvel et des Strange qu'on lisait dans sa chambre quand s'échangeaient moi et lui. Après le soir, au fond de mon lit, je regardais le plafond. Je testais mes pouvoirs, j'avais un laser si je me concentrais qui me sortait par les yeux. Je pouvais tuer des gens, j'étais un dieu et je m'endormais comme ça, content, j'étais heureux. J'écoutais le son des peupliers dans le vent, j'écoutais la respiration de mon frère, j'écoutais le bruit des amants de ma mère. Elle attendait toujours un peu mon père, je savais moi aussi qu'il allait rentrer un jour sûrement, que ça pouvait pas être autrement. Le matin à l'école, on me racontait toujours des films incroyables avec un mec, à un moment la fille lui fait tout, ah oui tout, mais quoi? On se montrait un peu fermé, le creux de nos bras paraissait que les filles en dedans, au milieu. C'était comme ça et moi toujours, je voulais que tout le monde m'aime, j'avais un tel besoin d'amour, qu'il aurait fallu tout l'amour de la terre et que ça faisait encore pas beaucoup pour que je me sente enfin à l'aise, me faire aimer de la boulangère, des gens qui passent dans la rue, me faire aimer de toutes les grand-mères, j'aurais demandé de l'amour à un clochard, toutes ces histoires d'enfants perdus qu'on retrouve pas, les enfants leurs problèmes, c'est qu'ils sont pas regardants, ils prennent ce qui vient, je sais, moi j'étais comme ça. Et je me souviens encore de mon voisin Johnny, qui était nerveux, je crois, qu'a mal fini. J'ai revu plus tard que j'étais vendeur, il m'a pas reconnu. Je l'ai laissé prendre un 12 dans le magasin. Tout ce qu'il a bu, il a pas compris. Il a cru qu'il était plus malin. Et moi, je me souvenais de lui qui était chef de bande. À le voir, j'avais de la peine. Plus tard, à ce qu'on m'a dit, qu'il prenait des trucs graves dans les mêmes cages d'escalier où on mangeait nos chocos BN, où on se tenait contre le chauffage les jours d'hiver où il neigeait, où il y avait une bataille de neige géante dans tout le quartier. On se partageait les gants, on attaquait en rang serré. Fallait prendre tout le côté droit des immeubles bis de la cité. Johnny, c'était notre chef, on se s'est fait prendre pour lui, on avait la fidélité. On mettait des cailloux, des calots, des billes dans la neige, au milieu des boules, tout ce qu'on pouvait trouver. Je me rappelle quand j'ai vu mon caillou ouvrir la tête d'un mec d'en face, et je revoyais le sang du mec, j'en revenais pas. Je croyais qu'on allait venir me chercher, j'attendais la police la nuit, j'attendais tous les pas venir dans l'escalier. Je me souviens, la dernière nuit, avant qu'on parte, j'ai senti le monde disparaître au-dedans de moi. Je regardais les valises déjà faites, j'ai commencé tôt la nostalgie. J'étais déjà tellement doué pour ça tout petit. Et je me souviens encore d'un jour, la fille de la voisine que j'aimais pas, elle me montrait tout ce qu'il y avait à voir. Et moi j'imaginais Barbara, je lui montrais moi aussi. Elle voulait que je lui dise que je l'aime. Elle me courait après dans les couloirs. Je lui disais que non, je ne l'aimais pas. Mais toi, je t'aimais bien toi. Je t'aimais Barbara. En 1982, en 1983, oh oui, depuis longtemps, je t'aimais, Barbara et Jérôme aussi, et Kassem, et le parrain de ma sœur et ses filles, et maman et mon petit frère, ma petite sœur et mon père qui revenait pas. J'aimais tout le monde à l'époque, tous ces gens-là, et Johnny aussi, et même Sylvie qui était en retard. Je les aimais tous, mais surtout toi, toi. Toi, je t'aimais, Barbara, en 1982, en 1983, depuis longtemps. Je t'aimais, Barbara. Su, Barbara, si tu m'aimais, Barbara. J'ai jamais su, Barbara, jamais su, si toi, tu m'aimais, Barbara. 1982, en 1983, j'ai jamais su.
'83, Barbara clôt le premier des deux disques de l'album « Personne ne le fera pour nous » de Mendelssohn. Sur le choix de ce titre, le leader du groupe, Pascal Bouaziz, nous éclaire. La phrase extraite d'un poème de Bukowski, « Il faut apporter sa propre lumière dans les ténèbres, personne ne le fera pour nous », était affichée pile au-dessus de mon bureau. Alors on a appelé ainsi l'album parce que l'on a fait tout tout seul. Du début à la fin, l'enregistrement, la fabrication, et même coller les timbres sur les enveloppes pour l'envoyer. Tout. À nous, tout seul. Voilà pourquoi. À côté de cette citation de Bukowski, il y a sur le mur du bureau de Pascal Bouaziz une photo du musicien, âgé de 3 ans, en compagnie de sa grand-mère. C'est de cette photo qu'a découlé l'écriture de la chanson « Barbara » de Mendelssohn. Pascal Bouaziz raconte. Et donc, il y avait cette photo accrochée au-dessus de mon bureau. Le reste a coulé à peu près tout seul, il aura fallu malheureusement beaucoup de temps et de douleur et de repentir, du travail quoi, pour que la chanson ne fasse pas 24 minutes 30. Mais on s'en fout de ça, non? Au cas où on vous le demande, si quelque chose est vrai de ce qui est raconté dans la chanson, à part ce qui est complètement inventé, bien sûr, au cas où on vous le demande à vous, je ne sais pas bien pourquoi, au cas où, la réponse c'est... Comme disait Jean-Jacques Nissen, je ne sais pas si c'est vraiment vrai tout ça, mais en tout cas, je m'en souviens très bien. Au prénom Barbara, depuis le poème de Jacques Prévert, sont attachées la nostalgie des amours passés, une certaine forme de mélancolie face au temps qui passe et ne revient pas. Mendelssohn savent cela quand ils choisissent ce prénom. Le poème de Prévert célèbre l'amour, oui, en même temps qu'il fustige la guerre. « Quelle connerie la guerre, nous dit le poète, qui détruit la ville de Brest, qui détruit l'amour. » Le temps passé, les choses finies, les amours évanouis. Oui, Prévert aura offert à ce nom, Barbara, le poids de ces choses-là. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara!
Pop.
En 1987 paraissait le premier disque du groupe Noir Désir, un mini-album de 6 titres qui s'ouvrait avec la chanson « Où veux-tu que je regarde ?». Dès ce titre, le propos du groupe est affirmé. Tout d'abord, l'héritage poétique d'un chant français, Lautréamont, Rimbaud et Prévert, dont le « Rappelle-toi Barbara » sert ici d'accroche, de porte d'entrée dans l'univers de la chanson. Ensuite, l'héritage musical anglo-saxon d'un rock incandescent à guitare. L'album est produit par Théo Akola, alors leader du groupe Passion Fodder. Si l'on regarde de près les albums publiés par Noir Désir tout au long de cette fin de XXe siècle, on n'y décèlera que deux reprises qui soulignent cette double influence. Dans le dernier disque du groupe, Des visages, des figures, c'est Léo Ferré qui est repris. Dans le troisième album du groupe, Du ciment sous les plaines, on trouve une chanson du groupe post-punk australien The Saints, The Chameleon.
Must love.
Originaires de Brisbane, Australie, comme les Gobi Twins ou comme les Apartments, qui apparaissent en cette même seconde moitié des années 70, The Saints ont fait paraître leurs trois premiers disques en l'espace de deux années, 77 et 78. Leur succès, au début, s'est construit sur un malentendu. Assimilé au mouvement punk, qui naît en 77 en Europe, The Saints se situerait plutôt dans un héritage rock'n'roll, rhythm and blues. Chris Bailey le concède. Les premiers titres du groupe sont tous inspirés de riffs, de chansons de Eddie Cochran. Ce classicisme, s'il les fait apparaître assez vite comme démodé, leur apportera finalement les clés de la longévité. Quand le label EMI les repère, alors qu'ils tournent dans les clubs de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, il fait venir le groupe à Londres afin de leur faire enregistrer un premier album. Un second s'ensuit, vite, mais le succès n'arrive pas. Les deux têtes du groupe, le chanteur Chris Bailey et le guitariste Ed Kuepper, se déchirent. C'est dans ce contexte qu'est enregistré le troisième disque du groupe, passé totalement inaperçu, Prehistoric Sounds. La rupture avec le punk est consommée, les chansons sont ornées d'arrangements de cuivre, le chant de Bailey se fait soul, mais le disque est désespéré. Dans cette chanson, The Chameleon, Chris Bailey évoque les désillusions du groupe suite à leur venue à Londres et leur découverte de l'industrie de la musique. « Tu n'as pas le temps de te reposer, aucune pensée, aucun mot pour te réconforter, ni sourire, ni douce caresse. Je ferai le John Travolta, je me sens révolté, je danserai avec n'importe qui, je redeviendrai moi-même. Et parce que je suis un caméléon, je fais ce que je peux. » Je trouve que c'est bien, quand il y a de l'argent à la clé, de faire le clown pour une compagnie de disques. Ils m'ont obtenu un tas de choses formidables. Ils m'ont offert une maison, une voiture, un bel endroit où recevoir mes amis, et du coup, j'ai plein d'amis qui viennent me voir, qui me disent qu'ils m'aiment pour de vrai, parce que je suis un caméléon. The Chameleons, c'était aussi le nom d'un groupe anglais fondé en 1981.
In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth.
What on earth are you talking about?
We'll be right back.
On ressort de Script of the Bridge, chamboulé et sans repère, comme si on venait de visiter un rêve. Et c'est d'ailleurs un peu ça, dans la texture fantasmagorique de cet album, dessine un voile onirique qui bouleverse les sens. Le ton, particulièrement crépusculaire, composé essentiellement de guitares acérées et transformées en créatures mécaniques, crée une impression d'abîme, une sorte de chute dans l'irréel, les chimères et les cauchemars. Véritable déclaration, sans affectation, des tourments intérieurs, ce sommet absolu de la cold wave anglaise ressemble à un rendez-vous morbide. C'est sur le site xsilence.net, sous la plume de Vic, que l'on peut découvrir ces lignes enthousiastes sur le premier album du groupe The Chameleons. On tient bien là, en effet, un des plus beaux manifestes de la pop froide, alias Cold Wave, qui vivait ses belles heures au début des années 80. Batterie métronomique, guitares acérées, production réverbérée, texte désespéré. Au service, sur cet album Script of the Bridge, de très belles compositions interprétées par la voix étranglée, essoufflée de Mark Burgess. L'album s'ouvre sur une courte référence cinématographique, la citation d'un dialogue tiré du film Two Sisters from Boston, une comédie musicale américaine des années 40, à l'univers opposé de celui habité par The Chameleons. In his autumn, before the winter, comes man's last mad surge of youth. En son automne, avant que n'advienne son hiver, l'homme est visité par une dernière et folle poussée de jeunesse. Et à y réfléchir, cela correspond bien à la musique des Chameleons, une énergie adolescente au service d'une vision du monde usée, revenue de tout. Il est arrivé depuis que des groupes utilisent des extraits de films pour les intégrer à leur musique. Celui qui a poussé la logique jusqu'au bout, offrant à l'extrait du film lui-même une dramaturgie musicale, une toile de fond tissée de cordes de guitare, le groupe qui a offert une nouvelle mise en scène, musicale celle-ci, à une séquence cinématographique, c'est Diabologum. On est en 1996, quand paraît leur troisième album. En huitième position, il y a cette chanson, La maman et la putain, construite autour du monologue magnifique que le réalisateur Jean Eustache avait placé dans la bouche de la comédienne Françoise Lebrun.
Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous, tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille demi, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux te reposer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je ne joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, n'est pas une pute. Il n'y a pas de pute sur terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Il y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. Et on me baise et je prends au pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein? Comme je t'aime. Toi, pour me baiser comme ça. Quand les gens veulent se pleurer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante, quelle chose horrible et sordide, maximum d'amour. Et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire cloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors, j'ai un tampage dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, pour en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un grand fou. Et autrement, c'est quelque chose de sordide. Il faut baiser pour tout ça, nous vraiment. Oh, je ne suis pas. Parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. Les très jolis seins, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus.
Le troisième album de Diabolo Gomme fut leur dernier et demeurera ensuite un des disques les plus marquants, les plus ambitieux et les plus aboutis du rock français des années 90. Dès le début de l'aventure, 5 années auparavant, en 1992, le cinéma fit partie des influences fortes desquelles se nourrit la musique du groupe. Arnaud Michniak se fait appeler Taz, d'après Tadzio, le héros du film Mort à Venise de Luchino Visconti. Michel Clou, quant à lui, est Peter, en référence à Peter Parker, alias Spider-Man. Dès le premier album du groupe, c'était un lundi après-midi semblable aux autres, un titre est basé sur une longue séquence tirée du film de David Lynch, Sailor et Lula. Le procédé sera donc repris pour le troisième album de Diabolo Gomme, avec beaucoup plus de force et de pertinence autour du monologue de Françoise Lebrun, dans « La maman et la putain » de Jean Eustache, sorti sur les écrans en 1973, l'histoire d'un trio amoureux dont l'homme est incarné à l'écran par Jean-Pierre Léaud. Michel Clou, quand Diabolo Gomme se sépare, peu de temps après la parution de ce troisième album, fonde le Michel Clou Duo avec le batteur Patrice Cartier. En concert, ils invitent parfois Françoise Lebrun elle-même, qui offre une voix toujours aussi vibrante que dans le film d'Eustache, même si depuis 30 années, ont passé.
Plusieurs fois cet après-midi, J'ai eu envie de t'appeler pour savoir comment tu allais aujourd'hui. Nous aurions parlé de tout et de rien, une avalanche de banalités, comme nous le faisions quotidiennement. Et tu m'aurais sans doute rassurée sur des détails assez peu importants. Et j'aurais fait la même chose avec toi. Ça m'aurait fait du bien, je crois. Ça t'aurait fait du bien aussi. Et nous aurions raccroché un peu mieux, tous les deux.
Cet après-midi, j'ai eu envie de t'appeler pour savoir comment tu allais aujourd'hui. Si tu avais bien mangé, si tu avais bien dormi, si tes douleurs s'étaient apaisées, si tu arrivais un peu mieux à marcher, tu m'aurais demandé comment j'allais. Si avec la musique je gagnais bien ma vie, nous n'aurions pas parlé politique ni poésie, juste des questions pratiques, juste des questions pratiques. Plusieurs fois cet après-midi, j'ai eu envie d'entendre le son de ta voix.
Plusieurs fois cet après-midi, j'ai eu envie de parler avec toi.
Ça m'aurait fait du bien.
Ça m'aurait fait du bien aussi, je crois.
Nous aurions raccroché
un peu mieux tous les deux.
Un peu mieux
tous les deux.
Tous les deux.
Paris, à la Gaîté Lyrique, le 18 février 2014, est enregistré en public le disque « Nous vieillirons ensemble » de Michel Clou-Duo. Avec Clou, au chant et à la guitare, et Patrice Cartier, à la batterie, on peut entendre sur ce disque deux invités de marque. La comédienne Françoise Lebrun, la putain du film d'Eustache, La maman et la putain, ainsi que Pascal Boisise, le guitariste et chanteur du groupe Mendelssohn. Sur ce titre, plusieurs fois cet après-midi, on entendait les deux. Mendelssohn est révélé dans les années 90 avec un premier album qui paraît sur le label français Lithium, qui avait signé auparavant Dominique A ou encore Diabologum, un label indépendant car seul un tel label, au travail passionné, seul un franc tireur pouvait reconnaître cette musique étrange, évoluant en dehors de tout code, de toute esthétique connue, une musique dont l'aridité formelle est inversement proportionnelle à sa puissance poétique lancinante, comme la caractérise définitivement le critique Sébastien Bataille. Mendelssohn est un groupe à géométrie variable, mais aux côtés de Pascal Boisise, il y a des fidèles. Tel le batteur Jean-Michel Pires. Pires semble être partout, au sein de Mendelssohn donc, mais on a pu l'entendre aussi aux côtés de Jan Tiersen, et dans les groupes BED, NLF, Trio ou encore The Married Monk.
We met in a bar. Nothing special so far. Till the moment they suggested a drive to the coast. Minutes later, we hit the road. The guy who was driving was fat and dressed in black, and all of a sudden he blew his stop when I told him he was driving too fast. I kept quiet for a while. Then I said, I know the dive for the west. Let's go and I'll pay my round. But no answer was to be heard. And then they stopped the car, got me out without a word, got me to undress, lay me down on the sand and pissed all over my body, insulting me the hardest way. I seemed to be attracting them the very same way. Blood attracts sharks and pit bull terriers. Boys, you've been after to me, yes, you've been chasing me. Shove your bloody dignity aside and prepare yourself for dying like a dog. One barked. So I had a thought for my family, remembered my first lover, understood I'd never see the sun setting on this Roman beach, and felt the cold blade of a thick knife penetrating me.
Boys, you've been after me. Yes, you've been chasing me, and now you've captured me. What a pleasure it must be. But before you stab your prey, before I pass away, be sure that I live for this, and this is my game.
En 2000, quand le groupe de Christian Kermalet, The Married Monk, entre en studio pour enregistrer l'album qui deviendra Rocky, ils ne sont pas seuls. Les accompagnent Ian Tiersen ainsi que Joey Burns du groupe américain Calexico. Pour réaliser ce disque, c'est Jim Waters en personne qui occupe le poste de producteur. Basé à Tucson, en Arizona, Jim Waters a créé son propre studio d'enregistrement aux instruments vintage et aux sons analogiques. Du beau monde est passé par ce lieu que Jim a nommé Waterworks. Quelques groupes français tels Married Monk ou Little Rabbits, ainsi que des pointures américaines telles Sonic Youth, Calexico, Boss Hog ou John Spencer Blues Explosion. C'est avec ces derniers et un extrait de leur disque de 1994 Orange, produit par Jim Waters donc, que se terminera cette émission d'Eldorado, que s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Brenda est le titre de ce morceau de John Spencer Blues Explosion. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver les émissions en écoute ou téléchargement, ainsi que les références exactes des poignées de morceaux programmés durant chacune d'elles, sur le site www.radio-eldorado.fr. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.
Some of the earth.